Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, l'émission du vendredi 17 janvier 2020. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie d'Arpin Basu, qui est de retour de Philadelphie, où le Canadien a eu une impressionnante victoire quand même face aux Flyers.
Dans le contexte, absolument, considérant le fait que le Canadien était complètement amorphe la soirée d'avant, dans une situation où il aurait dû avoir toute l'énergie au monde, puis essayer de tirer un avantage quelconque contre une équipe qui avait joué la soirée d'avant, sont juste simplement pas présentés. Ils s'en vont à Philadelphie, une équipe qui a battu les Blues la soirée d'avant, ils ont battu les Capitals et une grande remontée contre les Bruins dernièrement. Alors une équipe qui allait quand même bien. Ils ont réussi à contrôler le match puis de ne pas se faire abattre par en donnant le premier but.
Ouais.
C'est Thomas Tatar qui marque 18 secondes plus tard et on montrait des signes de quelque chose qu'on a pas vu de cette équipe là depuis longtemps. Honnêtement là, il y avait certains éléments de ce match là qui aurait pu complètement tourner le match en faveur des Flyers, puis les Canadiens ont pas réagi de la façon qu'ils ont réagi depuis.
Donc tu parles au niveau de, tu sais, il y a des situations de jeu qui se présentent et l'équipe ne s'effondre pas.
Ben c'est ça, tu sais, ouais. Il y avait, tu sais, l'échappée de Scott Laughton qui aurait pu être un 2-0.
Oui.
Tu sais, comme la passe a été donnée à Scott Laughton, puis je pense que c'était Giroux qui l'a donné le passe, puis il est allé au banc, là, parce qu'il était comme, mais il en échappé anyway, là. C'est comme, il aurait pu aller avec lui, puis créer un 2-0. Carey Price qui fait l'arrêt, puis il fait d'une façon qui est comme, qui te rappelle les Carey Price, quand il est vraiment sur son jeu et quand il joue à son mieux. Puis je pense que ça a eu un effet sur l'équipe. Ils ont marqué sur le jeu sur cette supériorité numérique une minute plus tard, marqué encore 11 secondes plus tard. Alors, tu sais, c'est des choses qu'on a juste pas vues de cette équipe-là. ce qui ou des signes, dépendamment de ton point de vue, c'est des signes encourageants ou vraiment décourageants. Si tu espérais que cette équipe-là continuait à glisser dans le classement.
Une chose qu'on n'a pas vue, qu'on n'avait pas vue avant hier, puis là, on pourra dire, on l'a vu, ça existe, c'est possible, c'est comme un Bigfoot, on l'a déjà vu. On l'a vu Jesperi Kotkaniemi jeter les gants devant Robert Haig. Et ma foi, il y a des talents cachés parce que, je veux dire, les droites, une droite n'attendait pas l'autre. Ouais. C'est assez... moi, personnellement, je suis pas du tout un fan des bagarres, là, zéro. Mais il y a quelque chose dans la solidarité, l'esprit de corps, le fait de se porter à la défense d'un coéquipier. On peut se dire, ben, la méthode pour s'y prendre est pas la bonne, mais le réflexe, le fait que ce soit un réflexe, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est, à mon avis, qui est encourageant, c'est de dire, hey, un instant, là, tu viens de faire quelque chose à mon chum que j'accepte pas. Je trouve que, surtout venant d'un kid de 19 ans à l'endroit d'un autre jeune coéquipier, c'est des gars qui vont jouer ensemble pendant des années. Évidemment, je parle ici de Ryan Poehling qui venait d'être victime d'une mise en échec assez douteuse de la part de Haig. Je trouve que, c'est ça, on peut être contre les bagarres, mais je trouve que le réflexe comme tel a été, somme toute, assez sympathique.
Ah, c'est louable. C'est comme, tu vois ça d'un jeune joueur qui s'est jamais battu de sa vie. Peu importe le niveau de hockey.
Il n'avait jamais participé
à un match. Avant d'arriver à la Ligue nationale, il n'a jamais participé dans un match qui avait un bagarre dans le match. Alors, non seulement lui, mais tous les joueurs. Alors, quand même, c'est quelque chose... puis, tu sais, après le match, il m'a pris puis il m'a demandé « Hey, pourquoi j'ai eu le 10? » C'est à ce point-là qu'il comprend pas tous les détails de cet aspect-là du jeu, tu sais, il comprenait pas pourquoi il y a eu le 10 minutes, c'est automatique quand t'es
instigateur
d'un bagarre que Claude Julien a pris la peine, pas une fois, mais deux après le match de identifier ça comme une décision assez doutable aussi. Mais peu importe, ses coéquipiers l'ont nommé le joueur du match. Shea Weber faisait des blagues que tu sais, fais attention, le killer arrive dans le vestiaire après le match. Tu sais, c'était comme juste une bonne chose, je trouve, dans une saison. Tu sais, pas pour rendre ça plus big que ça l'est là, mais dans une saison où il était pas trop souvent, tu sais, comparé à sa première saison. Tu sais, souvent on parlait de lui, on parlait bien de lui. Les autres joueurs étaient demandés des questions sur lui parce qu'il y avait tellement d'habileté, puis s'adaptait bien à la Ligue nationale, puis c'était clair que c'était un joueur talentueux. Mais cette saison, quand on parle de Jesperi Kotkaniemi, c'est souvent en disant que c'est une déception cette saison. Il a pris, tu sais, il joue pas super bien, les blessures, c'était surtout négatif. Alors, dans le contexte de ça, tu voyais dans sa face un peu après le match, c'était le fun d'être le sujet de quelque chose de positif, puis que toute l'équipe était content pour lui, puis alors c'est un beau moment dans sa saison où il n'y en a pas eu trop de beaux moments.
Ce serait un peu paradoxal mais je veux pas exclure cette possibilité là que ça puisse être un point tournant pour lui, que justement dans sa façon qu'il se mette que ça améliore sa confiance, que ça solidifie son sentiment d'appartenance, de sécurité, de confort au sein de l'équipe. Il disait, je suis capable de faire je suis capable d'intervenir de plusieurs façons dans un match, évidemment, et on est d'abord...
Je suis un grand garçon.
C'est ça, ben oui, absolument. Ouais. et les livres, en plus, que j'ai mis vont servir à quelque chose, bon.
Ça.
Mais non, cela étant dit, ce serait évidemment... Je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être une coïncidence, mais... Ce serait intéressant que ce soit le début d'une deuxième moitié de saison plus encourageante pour Kotkaniemi. Je pense que son père, le père de Kotkaniemi a réagi
ben
à cette...
Dans le fond, ce matin, je l'ai texté. Je sais pas pourquoi j'étais tellement fatigué. J'ai aucune idée comment j'ai pensé de faire ça, mais j'étais curieux de savoir s'il l'avait vu. Parce que il est pas capable de voir tous les matchs en direct à cause du fait que c'est en plein milieu de la nuit pour lui là, mais je pense à chaque matin il se lève puis il regarde les highlights ou il regarde le match au complet. Alors rendu à 6 heures ce matin, c'était quand même début d'après-midi en Finlande, puis il l'avait vu. Puis il dit « Oui, je l'ai vu.
Ouais. »
Puis il a choisi comme un emoji pour dire à quel point il était surpris. Puis quand j'ai dit qu'il s'est quand même, il s'est tenu quand même assez bien, que ça avait l'air qu'il avait fait ça une quinzaine de fois déjà de sa vie. Puis il a dit « Oui, c'était très surprenant, il avait l'air de Mike Tyson.
Ouais. »
Alors, ce qui est vrai, dans le fond, tu sais, c'est honnêtement, c'est qu'il y avait aucun crainte de faire ce qu'il a fait. C'est surtout Hag qui savait pas trop à quoi s'attendre, puis finalement
je pense qu'il a été pris par surprise un
petit peu. Ben ouais. Je le blâme pas, parce que je pense qu'il a vu c'était qui, puis il s'est dit ok, bon, mais on va se donner des câlins puis ça va terminer là. Mais non, c'était pas ça. Mais pour revenir à ton point de le potentiel d'un point tournant, pour moi c'est vraiment le sentiment entre Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi. Les deux reconnaissent le fait que c'est quelque chose, c'est ce sont deux gars qui reconnaissent dans l'autre non seulement un coéquipier potentiel, mais vu que Ryan Poehling accepte et adapte tellement bien à jouer à l'aile, alors comparé à ce qu'on a vu plus tôt dans la saison, là la possibilité d'être des compagnons de trio commence à devenir quelque chose de vraiment réel.
Oui.
Dans les deux ont joué, tu sais, après le premier match, ben c'est pas le premier match qu'ils ont joué ensemble, mais l'autre soir quand ils ont joué ensemble, les deux l'ont dit, tu sais, j'espère que on va être capable de jouer ensemble pendant plusieurs années, et c'est comme le début de quelque chose. Alors dans ce contexte là je trouve le geste de Kotkaniemi, ça donne un autre exemple à quel point les deux s'aiment. Ils aiment jouer ensemble, ils s'aiment hors de la glace. Quand tu les vois dans le vestiaire, tu sais, je l'ai vu mercredi matin après le morning skate, là, les deux étaient juste en train de faire des blagues ensemble. Là,
ouais.
C'est une amitié et une relation coéquipier qui est en train de se bâtir. Et si tout va bien, tu sais, le Canadien peut juste espérer que ces deux gars-là deviennent des très bons joueurs ensemble. Et idéalement, dans un contexte idéal, comme compagnon trio, parce que ce que Poehling fait bien, c'est un peu la faiblesse du jeu de Kotkaniemi.
C'est ce que j'allais dire, ils sont complémentaires.
C'est ça. Alors, ça, c'était juste un autre exemple vraiment extrême, mais à quel point ces deux gars-là s'aiment.
Oui, parce que c'est un gars, Poehling exploite quand même très bien sa vitesse. C'est un patineur c'est un patineur qui est puissant, tu sais, il est acharné, exactement.
Ouais.
Puis en échec avant, que ce soit à 5 contre 5 ou en désavantage numérique, je pense qu'il est dans la face du porteur de la rondelle. Je pense que ça va être un bon attaquant également pour aller récupérer des rondelles libres. Il profite bien de son gabarit. Je ne sais pas s'il y a il y a pas vraiment des mains qui vont lui permettre d'être un marqueur incroyable au niveau de la Ligue nationale, mais je pense que ça peut être une combinaison intéressante d'avoir ces deux-là. Et puis là, bon, écoute, les blessés commencent à revenir. Hier soir, il y avait, ça a été le retour au jeu de Yoel Armia. Je ne sais pas si Armia pourrait éventuellement se retrouver sur le trio de Kotkaniemi, mais quoi qu'il en soit, avec une équipe en santé, il y aurait des options qui permettraient à Claude Julien de pouvoir compléter ce troisième trio-là de façon assez intéressante.
Ouais, puis parce que dans le fond, juste le retour d'Armia, tu vois à quel point ça devient un peu une équipe différente. Tu sais, Nick Cousins se retrouve sur le 4. Jordan Will, qui a pas connu le meilleur match au monde mercredi, lui, il sort de l'alignement. Pekka retourne à Laval. Tu sais, c'est comme les choses. Puis Derwish, je pense qu'il a mérité sa place de rester dans l'alignement pour l'instant, mais à un moment donné, quand Gallagher revient, Derwish va aller à Laval.
Ou Drouin.
C'est clair. Ou Drouin, ou whatever. C'est comme... Alors... C'est ça, tu sais, on le dit à répétition, mais cette équipe-là peut pas se permettre de manquer leurs meilleurs éléments. C'est juste pas une équipe qui est bâtie comme ça. Mais ce qu'il faut arriver pour que cette équipe-là devienne compétitive sur une base constante et pas pendant 3 semaines ici et 4 semaines là, c'est que les jeunes comme Kotkaniemi, Poehling, Suzuki, éventuellement Caulfield, peut-être un autre, tu sais, mais ces jeunes-là doivent comme avoir une contribution significative, et ça pendant les 2 prochaines saisons, je dirais, peut-être même 3, mais il faut que continuellement que tu ajoutes des jeunes dans le formule pour que cette profondeur-là deviens pas juste une profondeur, mais que t'as comme des talents de des talents sur lesquels ton succès va dépendre. Ça va venir de ces gars-là. Puis il faut espérer que ça arrive.
Ouais, parce que là tu regardes Marc Bergevin a envoyé le signal plus tôt cette semaine à notre collègue Pierre Lebrun qu'il était hors de question qu'il échange Carey Price ou Shea Weber tant et aussi longtemps qu'il serait le directeur général de cette équipe-là. Donc, il va maintenir le cap vers son fameux reset. Mais ce reset-là met énormément de pression sur des joueurs comme Suzuki et Kotkaniemi pour qu'ils livrent la marchandise et qu'ils deviennent des joueurs d'impact. Parce que si ça ne se produit pas, ben à ce moment-là, l'idée de se tourner vers le futur, il faut que le futur apporte les promesses que le Canadien voit dans ces joueurs-là à l'heure actuelle. Puis tu fais bien de parler d'une fenêtre d'un an ou deux, parce que évidemment plus on en a parlé abondamment, mais plus les années avancent, plus ça va devenir difficile d'espérer de Price et de Weber un niveau de compétence élevé. Alors, je pense que Suzuki a une saison recrue extrêmement encourageante qui laisse à croire qu'il y a des chances de pouvoir devenir le centre numéro un de cette équipe-là. Kotkaniemi, s'il se replace et que l'année prochaine il connaît une sorte d'éclosion à sa troisième saison dans la Ligue nationale, ben là t'aurais deux jeunes centres sur lesquels tu pourrais te baser. Sauf que tout le résultat de ce plan-là dépend d'eux autres, parce que c'est pas ce que Gallagher, Dano, Tatar pourraient te donner le plus, c'est à quel point Suzuki et Kotkaniemi peuvent devenir Absolument. Des joueurs d'impact. Si ça passe pas par eux, tout le reste du plan ne marche pas.
Non, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, dans le cas de Kotkaniemi, je trouve que, tu sais, c'est intéressant de, tu sais, je parlais à Mitch Pernick avant le match à Philadelphie, à TSN 690, puis la question est devenue, tu sais, c'est quoi la différence entre les Flyers et les Canadiens? Pourquoi les Flyers sont capables d'avoir du succès puis les Canadiens non? Puis essentiellement, ça revient à Sean Couturier. Ils ont un joueur de centre, un grand joueur de centre qui est capable de jouer sur 200 pieds de la patinoire et amène des éléments qui est unique à lui, vraiment un centre qui est capable de contrôler un match. Il l'a pas fait vraiment contre le Canadien, mais en général, c'est un joueur qui est comme un Patrice Bergeron, comme un Ryan O'Reilly, comme un Andrzej Kopitar. Il y a plusieurs équipes qui ont gagné la Coupe Stanley dernièrement, qui ont des joueurs comme Sean Couturier. Et moi, j'étais comme, ben, ça se peut que Kotkaniemi devienne un joueur comme ça. C'est possible. Le monde maintenant, il regarde, il connaît une saison difficile, puis ils sont un peu, ils ont tendance à dire que, OK, bon, ben, c'est fini avec ce gars-là. Il y a 19 ans, et j'étais comme, tu te rappelles les premières années de Sean Couturier, là, ça allait pas super bien, là. Il produisait pas d'offensive. C'était vu comme un joueur de troisième, quatrième trio, un joueur défensif purement. Et il était pas donné l'opportunité de montrer à quel point il est capable de contribuer à l'autre bord de la patinoire. Et quand il a eu cette chance-là, il est devenu le joueur qu'on voit maintenant. Moi, je vois, tu sais, souvent, tu sais, j'ai tendance à utiliser le modèle de développement d'Alexander Barkov pour voir qu'est-ce qu'il peut devenir. J'espère qu'il y a ennemi, mais c'est fort possible que ce que Sean Couturier est devenu et la façon qu'il l'a fait, c'est un chemin que Kotkaniemi pourrait suivre.
Oui.
Absolument. Je trouve que c'est pas quelque chose d'irréaliste dans son cas.
Ben écoute, c'est puis on pourrait dire un peu la même chose de Suzuki, parce que les compétences défensives de Suzuki sont là, elles aussi. Il y a beaucoup de maturité au plan défensif. Fait que le Canadien a probablement ciblé des gars qui vont être en mesure de leur donner du bon hockey sur 200 pieds de patinoire. Puis c'est vraiment dans la philosophie typique de cette organisation-là, de pouvoir valoriser des joueurs comme ceux-là. Mais je pense que c'est important de prêcher la patience. Mais évidemment, il va y avoir une obligation de résultat à un certain moment donné. Dans le cas de ces deux jeunes-là, ça viendra pas nécessairement immédiatement, mais il va falloir que ça vienne dans un horizon au moins à moyen terme. Mais là, je vais t'amener sur quelque chose d'autre qui est à beaucoup, beaucoup plus court terme. Ilya Kovalchuk. Quelle surprise.
Ouais.
Depuis son arrivée à Montréal, écoute, personne ne se serait attendu à ce que il donne du hockey de cette qualité-là. Je pense que les Kings de Los Angeles eux-mêmes doivent être les premiers surpris également de voir à quel point Kovalchuk montre un visage différent de ce qu'il avait avec eux au cours de l'année et demie qui est passée à Los Angeles. Mais très rapidement, les Canadiens vont être confrontés à une décision intéressante parce que là, on voit sur les médias sociaux, les fans disent « Ah ben là, il faut leur signer ». Il faut qu'il lui donne un contrat de 2 ans. C'est un joueur. Il va aider à l'intégration d'Alexander Romanov. C'est un vétéran qui est respecté au sein de l'équipe. Il va être une bonne influence, etc. Ça m'apparaît être un petit peu un piège dans lequel le Canadien ne doit pas tomber. C'est-à-dire d'entendre le chant.
C'est recency bias. En anglais, on appelle ça du recency bias.
Absolument. Réagir en fonction de ce que tu viens de voir comme résultat récent. Puis tu sais, Jordan Will n'est pas le même genre de joueur. Il n'a pas 36 ans non plus, mais on l'a vu débarquer à Montréal en fin de saison dernière avec des résultats pour le style de joueur qu'il est, des résultats qui ont été éclatants. Et puis, on s'est tous dit...
Il a réglé le problème de l'avantage numérique l'année passée.
Oui.
Lui-même. Juste lui seul. C'était le carte caché de l'avantage numérique l'année passée. Puis, pensait que...
Puis là, le Canadien avait quelqu'un, enfin un droitier pour emporter des mises en jeu. Alors, ça tombait sous le sens que le Canadien lui donne un nouveau contrat. J'ai applaudi la chose. Puis là, ben, on regarde ça, puis on se dit « Ah ouais, oui, il est encore ce contrat pour l'année prochaine. »
Ouais,
pas tellement, finalement. Alors, je pense que dans le cas de Kovalchuk, c'est... La comparaison que je ferais, c'est que c'est comme si Kovalchuk... c'est comme si le Canadien avait parié sur Kovalchuk, était arrivé à la table de jeu de cartes pour jouer au blackjack, mettons. Et... Là, le Canadien doit éviter, maintenant qu'ils ont ramassé bien les chips, là, ils doivent quitter la table
au bon moment,
puis aller empocher leurs gains.
Ouais.
Ils peuvent attendre encore un peu, c'est-à-dire plus longtemps on avance et plus Kovalchuk va donner un échantillon qui va être alléchant pour les autres équipes. Mais je pense pas que l'échantillon va avoir besoin d'être encore 10 matchs. Là. C'est déjà assez... Déjà,
c'est 7 points en 7 matchs. C'est 7 points en 7 matchs. Il joue quasiment 20 minutes par match. Il joue sur l'avantage numérique. Et c'est surtout la façon qu'il s'est intégré au groupe.
Mm-hmm.
Que si moi j'étais une autre équipe qui cherchait quelque chose, c'est ça qui m'intéresserait le plus. Parce que, tu sais, il est arrivé à mi-saison. Ça allait pas bien. Pantoute. C'est l'atmosphère autour de l'équipe était tendue. C'est pas la meilleure situation pour un gars comme lui d'arriver puis essayer de se faire sa place dans le groupe. D'une façon, oui, parce que l'équipe avait besoin de l'aide, alors puis il y avait de la place pour lui parce qu'il y avait tellement de blessés, mais à la fois non,
c'est ça,
aussi
c'est comme
parce que
bien avoir un impact là.
Bien avoir un impact, oui, mais en même temps il y avait tellement de pression autour de l'équipe, tu sais, c'est comme c'était pas vraiment un environnement qui était comme léger. Disons.
Non.
Mais moi, ce que je trouve cool de sa part, c'est à quel point il sent partie de l'équipe déjà, là. C'est comme, tu sais, hier soir, à Philadelphie, il y avait un journaliste local qui l'avait demandé, est-ce que tu t'attendais à voir tellement un bon départ avec l'équipe, avec le Canadien? Faisant référence, évidemment, à ses 7 points en 7 matchs. Mais la réponse de Kovalchuk, il dit, ben, on est 3 et 4 depuis mon arrivée, là. Alors, je trouve pas que c'est un bon départ du tout. Et ça donne exactement ce que tous ses coéquipiers disent depuis son arrivée, là. Il veut juste aider l'équipe à gagner. C'est son seul intérêt. Les points, les buts, tout ça, sont un peu secondaires pour lui. Il a quand même marqué ses buts et marqué ses points au cours de sa carrière. Mais il aimerait ça faire partie d'une équipe gagnante. Puis, on le voit. On le voit souvent, puis les commentaires des gars comme Max Domi puis d'autres gars sur l'équipe, les jeunes particulièrement, qui sont un peu... peuvent pas croire vraiment qu'ils sont coéquipiers avec Ilya Kovalchuk en ce moment. Je dis tout ça pas pour dire que les Canadiens devraient le garder, mais Ilya Kovalchuk, il est très heureux de jouer pour le Canadien en ce moment. Il mentionnait qu'il a rencontré Jeff Molson pour la première fois avant le match contre Chicago. Juste, il a décrit l'atmosphère comme familiale. Il a dit comme c'est une famille ici, j'aime ça ici. Mais je trouve que t'as entièrement raison que ça serait le temps de... Particulièrement si les blessés reviennent puis ils sont en santé puis... Parce que ça devient un peu difficile de trouver une place pour lui dans l'alignement quand tout le monde est en santé. Tu veux pas vraiment qu'il prenne du temps de glace d'un jeune comme Poehling ou quelqu'un d'autre, là. C'est, tu sais, un Suzuki ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, comme quand les Canadiens l'ont signé, moi, je me suis dit, bon, ben, si tout va bien, il pourrait peut-être avoir un choix de quatrième ronde pour lui éventuellement s'il démontre qu'il est capable de jouer. Là, la possibilité d'avoir un choix de deuxième ronde devient comme possible. Ouais. C'est comme, c'est pas ridicule. J'ai vu du monde qui disait, ah, ça va devenir un choix de première ronde. Non. Arrête ça. Mais choix de deuxième ronde, s'il continue comme ça pendant un autre, quoi, un autre mois.
Ouais.
S'il y a un autre mois comme ça, puis on s'entend que ça fait juste, c'est un peu plus que deux semaines qu'il est là, ou en fait deux semaines, non, un peu plus, trois semaines à peu près.
Deux semaines.
Oh non, deux semaines. Alors, s'il y a besoin d'avoir quatre autres semaines comme ça, mais s'il continue à avoir un point par match pendant un mois, le choix de deuxième ronde devient très réel. La possibilité devient très réelle.
Oui, puis en plus, étant donné qu'il gagne des peanuts, là, ben, toutes les équipes vont pouvoir se le permettre.
Oh, absolument.
T'sais, au plan salarial,
il n'y a aucun problème.
Alors, c'est intéressant parce que là, tu dis, ah, ben, moi.
Le salaire minimum de la ligue, là, c'est.
Ouais.
Ouais.
Alors,
c'est un contrat à deux volets aussi.
Ouais.
Alors, si jamais ça marche pas, t'as même pas besoin de garder son salaire sur ta masse salariale. Tu peux.
Non, alors, c'est quand même alléchant parce que quand t'as un joueur de cette trempe-là, c'est quand même, c'est Ilya Kovalchuk, là, c'est pas, c'est pas Mark Fistrick, là. Je sais pas pourquoi je pense à lui,
c'est pas Jordan Will.
C'est pas Jordan Will. Et puis, tu sais, puis qui est capable, qui démontre qu'il est capable d'avoir encore un impact malgré le fait qu'il a 36 ans, qui, inséré dans le bon système de jeu avec les bons coéquipiers, est capable de passer par-dessus ses lacunes. Ben, je comprendrais une équipe de dire, ben, il me semble qu'il viendrait nous aider. Nous autres, un push de fin de saison en séries éliminatoires.
C'est une bonne police d'assurance aussi, là, tu sais. C'est
exact.
Que si déjà t'as un top 9 qui est pas mal établi, mais tu rentres en série pis t'as ça au cas où il y a quelqu'un qui se blesse, il a déjà démontré là, qu'il peut jouer de la côté droite comme de la côté gauche, ce qui m'a surpris. Je pensais, moi dans ma tête, il a toujours joué de la côté gauche, là.
Ça a été un ailier gauche, mais en ce moment, il est plus efficace à droite.
Ouais. Alors, ça ajoute à sa valeur, tu sais. C'est comme vraiment l'ultime police d'assurance parce que non seulement que c'est clair que, tu sais, comme il a lancé, c'est un franc-tireur, comme Claude Julien l'a appelé hier soir, mais c'est un gars qui a déjà joué en finale de la Coupe Stanley, a déjà joué en série dans KHL aussi. C'est un gars qui a un certain paquet d'expérience qui pourrait t'aider, puis là, on est capable de voir, même si, je vais dire ça aussi, on n'a pas vu comment Kovalchuk réagirait s'il joue moins. Depuis qu'il est à Montréal, il joue beaucoup, dans des bonnes situations, des situations où il pourrait avoir du succès. Je suis pas certain comment il réagirait si c'était un joueur de quatrième trio qui jouait 12 minutes par nuit, là. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression que, basé sur tout ce qu'il a dit depuis qu'il est venu à Montréal, que s'il était échangé, à date limite, c'est parce qu'il va à une équipe qui a une chance de gagner quelque chose. Puis ça a l'air de vraiment l'intéresser. Là.
Ouais.
De juste faire partie d'une équipe gagnante.
Quand tu mentionnes le fait que Kovalchuk a été en finale de la Coupe Stanley, ça c'était en 2011-12, ouais, avec les Devils du New Jersey. Cette année-là, il a disputé 23 matchs de séries éliminatoires. Dans tout le reste de sa carrière.
Ouais.
Dans tout le reste de sa carrière, à part cette année-là, 9 matchs de série.
Ouais.
Alors c'est un gars qui a faim, il voit
seulement 4 avec les Thrashers.
Ouais.
Ouais.
Alors c'est un gars qui a faim de victoire, qui voit que la fenêtre pour que ça se réalise et se referme rapidement. Et
il doit quand même être réaliste que ça arrivera pas ici, là. Il doit le savoir.
Oui, il doit le savoir. Écoute,
alors quand il a signé le contrat, dans sa tête à lui, je peux pas croire que dans sa tête à lui, c'était pas que ok, je vais aller jouer là pendant 2 mois, je vais bien jouer, puis ils vont m'échanger à un contender, puis je vais être capable de de jouer en série avec.
Ben, il doit, je pense qu'il voulait avoir l'occasion de démontrer qu'il est encore capable de jouer dans cette ligue-là. Puis à ce niveau-là, après 7 matchs, il l'a démontré. Est-ce que, je pense pas qu'il va réussir à maintenir le rythme actuel indéfiniment, mais puis ça, je pense que tu sais, ça il faut pas que ça devienne le problème du Canadien. Mais au moins, il démontre qu'il y en a encore, il y a encore beaucoup de jus à donner là. Et c'est intéressant. Puis en plus, c'est qu'il y a des, il représente d'une certaine manière des forces fraîches parce qu'il a passé 2 mois sans jouer.
Ouais.
Et là, le Canadien va avoir une semaine de congé, son bye week bientôt. Ça va lui donner encore un repos additionnel. Fait qu'il va, il va être encore frais là quand le Canadien va revenir au jeu.
Alors, ouais. Ça va être... devrait en principe encore frais que à mi-février.
C'est ça.
Quand le Canadien commence à penser à liquider certains de ses actifs-là, puis ça devient un actif. Ça pourrait devenir un actif intéressant que les Canadiens ont acheté pour, c'est comme acheter, tu sais, s'ils reçoivent un choix de deuxième ronde, là, pour Ilya Kovalchuk, c'est comme s'ils ont acheté un choix de deuxième ronde pour genre 200 000 piastres.
Ouais.
Ce qui est comme rien dans la Ligue nationale.
Mais non, c'est vraiment, c'est par terre.
Ouais, c'est ouais. Ça. Alors.
Mais là, mais j'aimais beaucoup ton point du fait de dire que Kovalchuk était dans des conditions gagnantes pour pouvoir bien performer. Ce serait un piège qu'une équipe aille le chercher en disant il va être notre police d'assurance, puis il parque sur le côté sur un quatrième trio ou sans jouer avec des joueurs d'impact parce qu'il risque de pas avoir le même rendement. Mais le Canadien va être devant un beau dilemme parce que là, si au retour de la pause, il retrouve Jonathan Drouin et peut-être Brendan Gallagher, ben là, est-ce qu'on va être capable de lui donner encore cette vitrine-là? Comme, là?
Ben c'est d'une certaine façon une opportunité pour le Canadien de démontrer aux autres équipes que oui, effectivement, il peut même jouer dans un rôle plus effacé, un moindre rôle. C'est pas nécessairement le cas qu'il a besoin de jouer sur le premier trio, whatever. S'il est capable de faire, on sait pas, mais si Gallagher revient, Drouin revient, et tout d'un coup, il se retrouve avec Nate Thompson sur le 4, là, et continue à quand même bien performer, peut-être pas, tu sais, on s'entend qu'il produit pas un point par match sur le quatrième trio, mais s'il est capable d'être efficace et de démontrer aux dépisteurs que il est là, il est impliqué, et il est dans la game, tu sais, c'est comme, c'est ça, ouais. C'est un peu ça la réputation que Kovalchuk a, c'est que quand ça fait pas son affaire, il est plus ou moins là. Alors, s'il peut démontrer que, moi je vais jouer sur le quatrième trio, je vais pas chialer, je vais m'asseoir sur le banc pendant, tu sais, 5-6 minutes de jeu, puis aller avoir mon shift, puis prendre une autre 3-4 minutes de repos, whatever, et je suis capable de faire ça, il devient, à mes yeux, encore plus attrayant aux autres équipes parce qu'ils vont le voir dans un rôle semblable à ce que les autres vont lui donner.
Ouais.
Alors, mais ça serait un autre test pour lui. Alors, on verra parce que je pense que toi, t'as fait l'exercice de refaire l'alignement en santé avec Kovalchuk, puis c'est pas évident, là. C'est pas évident où le mettre.
Non.
Sans enlever du temps de glace à des espoirs que tu veux pas enlever leur temps de glace. Tu sais, Ryan Poehling, il doit jouer. S'il joue pas, il va à Laval, puis...
Ouais, mais regarde.
Il y a un argument à faire qui pourrait jouer à la
là, on va s'ostiner pour le plaisir de s'ostiner, là, parce que bon, c'est le bon temps pour le faire. Mais c'est juste de gérer ton, si l'idée en bout de ligne, c'est d'aller chercher un maximum d'actifs en retour de Kovalchuk. Si tu vises de dire, il faut qu'il puisse nous rapporter un choix de deuxième. Ben, moi, je veux dire, gardez-le dans au penthouse de la formation du Canadien le plus longtemps possible. Sur le trio où il est, vous mettrez Gallagher avec Dano et puis Domi, vous mettrez Drouin avec Kotkaniemi et Armia, puis dans le fond là, pour 2-3 semaines de jeu de plus, tu dis ben Poehling il peut attendre.
Uh-huh.
Et puis au moment où il y a une place qui se libère parce que Kovalchuk aura été échangé, peut-être, sait-on jamais, peut-être parce que Tatar a été changé.
Mais là, Nate Thompson a une bonne chance d'être échangé.
Aussi, bon, ouais. Oui, absolument, ça, c'est absolument. Alors, ben, à ce moment-là, tu réintègres Poehling, c'est de la gestion, c'est on parle de 2 ou 3 semaines de hockey, là.
Mm.
Alors, je pense pas que, il faudrait pas de dire, ben, le big picture est tellement important, le long terme est tellement important, qu'on sacrifiera pas du temps de jeu à Ryan Poehling. Si, parce que c'est un couteau à double tranchant, si tu demandes à Kovalchuk de dire, ben, t'as été un bon soldat, tu nous as fait un point par match, Mais là, désolé, Drouin revient au jeu, Gallagher aussi, alors votant sur la quatrième ligne. S'il se met à bouder, ça va rapidement être la fin des haricots. Là.
C'est drôle que tu l'appelles un soldat. Il s'est lui-même appelé un soldat hier soir. C'est notre but, on a un but, c'est de faire les séries. On va faire un push. Personne dans cette bestiaire-là a lâché prise. Moi, je suis juste un des soldats.
Ouais.
C'est ça qu'il a dit. Mais moi, je trouve que c'est sincère. Mais c'est vrai que on l'a pas parlé dans un contexte où il vient jouer 11 minutes, c'est 2 minutes sur le jeu de puissance, puis comme 8-9 minutes à force égale. Ton hypothèse est intéressante, mais le problème avec ça, c'est que le Canadien a encore espoir de faire les séries, même si c'est pas vraiment réaliste, mais dans leur tête à eux, c'est ça leur but. C'est ça qu'ils essayent de faire. Mm-hmm. Alors, quand des joueurs reviennent, est-ce que tu vas faire ton alignement pour valoriser quelqu'un que tu as l'intention d'échanger à la date limite, ou est-ce que tu vas mettre ton meilleur alignement parce que tu essaies de gagner des matchs, parce que tu veux faire les séries?
Ouais, mais écoute, ça se contourne assez facilement. C'est que d'une part, Kovalchuk avec Dano, en ce moment, ça demeure le meilleur, même en l'absence de Gallagher, en ce moment, ça demeure le meilleur trio du Canadien. Mm-hmm. Gallagher a prouvé par le passé, avant qu'il soit jumelé et marié à Dano, que peu importe le trio sur lequel il allait, il aidait à relancer ce trio-là. Je pense que ça pourrait faire absolument le bonheur
de
Nick
voir
Suzuki.
Avec Domi.
Ben oui. Domi, Suzuki, Gallagher.
Suzuki, Gallagher.
Ben oui,
ça,
absolument.
Ça serait intéressant.
Puis Drouin, écoute, tu lui dis, t'as manqué beaucoup d'action. On te réintègre graduellement. On est super content de ton travail, tu sais, puis et le Canadien de cette manière-là se retrouve à avoir trois lignes d'attaque. S'ils croient vraiment là, à leur chance de participer,
qu'est-ce qu'il fait avec Lekkonen dans ce portrait-là? Il joue sur quatre.
C'est là où ça devient délicat, parce que ouais. Il y en a un de Armia ou Lekkonen
qui jouerait sur
le quatrième trio.
Ouais.
Alors
Lekkonen, c'est sûr que ça serait pas lui, certain. Ce coach-là mettrait jamais Arthur Lekkonen sur le quatre. Lui, il va voir son temps de jeu.
Il l'a fait l'année passée, à un certain moment donné.
Ouais, il l'a fait quand il a passé 30 matchs sans marquer, là. C'était rendu comme impossible de pas réduire son temps de jeu, là. Mais s'il y a un moindre excuse de jouer ce gars-là, là, Claude Julien va jouer.
Oh, oui, absolument.
Alors,
puis il est meilleur qu'un joueur de quatrième trio, on va s'entendre. Il fait un paquet d'affaires qui sont utiles à l'équipe.
Ouais.
Mais c'est un intéressant casse-tête, tu sais. Mais c'est que si t'es pour dévaluer le gars que tu t'apprêtes à échanger, ben attends pas puis échange-le tout de suite. Mm-hmm. Parce que sinon tu vas attendre, justement, tu vas être à la table de blackjack puis tu vas avoir recommencé à miser puis tu vas voir tes
puis la beauté du chose, c'est que comme tu viens de mentionner tantôt, c'est que il y a pas de problème salarial pour l'échanger là. Il y a pas une équipe qui attend jusqu'à la date limite pour l'acquérir, parce que il y a 25 équipes qui pourraient le faire aujourd'hui.
Ouais.
Tu sais, ou peut-être 20 ans ou whatever, là. Il y en a des équipes qui ont vraiment qui comptent chaque dollar, là, qui dépensent à chaque jour. Mais c'est ça. C'est ma problème avec toutes ces hypothèses-là, c'est que, mais ce que tu viens de dire est vrai aussi, là, c'est que, tu sais, En gardant Kovalchuk avec Dano et Tatar, aussi longtemps que ça fonctionne, te permet de mettre Gallagher ailleurs, ce qui rend un autre trio meilleur, juste par défaut, parce que Gallagher est dessus.
Ouais.
Puis après ça, t'as un paquet d'options, là. T'as plein de choses que tu peux faire, mais ça commence à devenir... ça commence à redevenir l'identité que Claude Julien veut de son groupe d'attaquants. T'sais. C'est comme...
Le problème,
si jamais t'avais un Lekkonen sur le 4, tu sais, je mentionne que Claude le mettrait pas là, mais il y a aussi la possibilité qu'il jouerait le 4 et le 3. Tu sais, Kotkaniemi et Thompson, ou même Poehling au centre du 4,
mm-hmm.
pourrait juste avoir le même temps de jeu, là. Ça serait très faisable, puis le Canadien serait une équipe beaucoup plus efficace si c'était le cas.
Mais là, c'est là que tu vois que, en santé, cette équipe-là est trop bonne pour menacer, pour rêver à avoir beaucoup de boules dans le boulier, puis à rêver à Alexis Lafrenière. Tu sais, c'est une... Puis on n'a pas encore parlé du fait que Carey Price donne des signes de revenir en forme puis d'avoir une bonne, tu sais, de la même manière qu'il l'a fait en deuxième moitié de saison l'année dernière. Tu sais, ça sera probablement pas une équipe qui va participer aux séries parce que c'est creusé un trop gros trou. Mais avec cette formation-là, quand t'es rendu à considérer, dis bon, là, avec les gars que j'ai sous la main, lequel de Kovalchuk, Armia ou Lekkonen va aller sur le quatrième trio, c'est parce que t'as des outils sous la main.
Ben, c'est ça. C'est un peu ça le problème, c'est que, les blessures ont été tellement coûteuses. Et c'est vraiment c'est quelque chose que l'organisation doit voir, puis je pense qu'ils sont en train de le voir, puis ils sont en train de dire, la semaine prochaine, Mitch Brown va sortir son rendement des 15 meilleurs espoirs de l'organisation.
Mise à jour avec leur rendement en première moitié de l'année.
Mi-saison, il fait ça chaque année. On va le dévoiler la semaine prochaine. De ce gang-là, il y a probablement la majorité de ces joueurs-là qui vont se retrouver à Laval d'ici un ou deux ans. Même plus que moitié. Il y a une bonne portion de ces joueurs-là qui vont jouer à Laval. Puis une fois que ces joueurs-là sont rendus à Laval, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont comme espoir à Laval? Paling, tu pourrais faire l'argument que Paling devrait être à Laval, mais il l'est pas là. Alors, en ce moment, t'as Vedemo, t'as Primo, certain, t'as Brooke, qui joue pas super bien cette saison, mais quand même un des meilleurs espoirs de l'organisation. Et t'as aussi Jake Evans. Mais à part ça, t'as pas vraiment plein d'espoirs et plein de joueurs que, y a pas beaucoup d'options d'aller chercher quelqu'un pour remplacer quelqu'un à Montréal. Un joueur que tu vois dans ton alignement d'ici 3-4 ans. Il n'y en a pas beaucoup.
Effectivement. C'est
et dans les prochaines années, je trouve que tu vas en avoir beaucoup. Beaucoup plus que maintenant, c'est sûr, mais même beaucoup en général. Ça se peut que l'équipe de la Ligue américaine devienne super jeune puis il se met à perdre, puis ça c'est un autre problème que le Canadien va falloir qu'il gère. Là. Mais la meilleure option pour le Canadien, c'est que les espoirs qui sont dans le junior en ce moment ou rang collégial ou en Europe se retrouvent là à Laval. Puis il y a juste une compétition féroce à Laval pour le prochain call-up aux Canadiens. Ça va être moi et pas Yassi Ullinen ou quoi que ce soit, ou Jordan Harris ou whatever. Tu sais, comme t'as tous ces gars-là qui se retrouveront là. Et ça va permettre aux Canadiens, dans le meilleur des mondes, si le développement se fait comme il faut, que s'il y a des blessures à Montréal, t'es remplacé par un gars comme ça au lieu d'un gars comme Delwis, par exemple.
Oui. Mais là, si on regarde pour cette année, là, tu disais, j'ai l'impression que le Canadien pourrait s'accrocher à l'idée de participer aux séries éliminatoires. Si le Canadien, par exemple, gagne son match de samedi avant de partir pour sa semaine de congé, il pourrait revenir, grosso modo, à 5-6 points des équipes repêchées, des dernières équipes repêchées, qui, à l'heure actuelle...
Mais la victoire à Philadelphie les a rendus à 7 points des Flyers.
C'est ça, exactement. Ouais. Et qui sont, eux, à égalité avec les Blue Jackets de Columbus. À quel point trouves-tu ça raisonnable que le Canadien continue à rêver à cette possibilité-là? Parce que, tu sais, statistiquement, ça tient qu'à un fil, là.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils auraient tort de dire... d'agir en fonction du fait de ben, tant qu'on a une chance, on n'a pas le choix de la prendre, cette chance-là, au lieu, finalement, de hisser le drapeau blanc dès maintenant.
Ben, je pense qu'il y a du temps avant qu'ils sont obligés de prendre ces décisions-là. Tu sais, c'est comme, s'ils se mettent à gagner, puis ils se rendent à la mi-février, puis ils sont à comme 3 points des séries, mettons. Là, ça devient plus difficile de dire, OK, bon, ben, on va juste échanger des gars, puis on va le laisser faire, parce que le rendu là, t'es dans une position où il faut au moins récompenser l'équipe pour ce qu'ils ont fait, juste en faisant rien. Juste en disant, OK, on va vendre personne, on va rester statu quo, je vais pas échanger Kovalchuk, je vais pas échanger Thompson, je vais pas échanger tout ça.
Scandella,
il y a tout un paquet de monde qui aurait une certaine valeur sur le marché d'échange. Si ils sont dans le portrait, le mi-février, le 15 février, disons, à 9 jours de la date limite, ça serait difficile pour Marc Bergevin de dire à son équipe que, OK, c'est cool, t'as joué pendant trois semaines, t'as joué, t'étais une des meilleures équipes de la Ligue, puis là, je vais juste vous démanteler, puis moi, je dis, non, on est out, on ne le fait pas. Ça se fait pas. OK? Alors, je pense qu'il y a un paquet de partisans qui aimeraient qu'il le fasse anyway. Et, tu sais, on l'a déjà vu par le passé, tu sais, je pense à Doug Armstrong, quand il a échangé Kevin Shattenkirk, quand il était dans... je pense qu'il participait aux séries au moment où il a échangé Shattenkirk. Finalement, il a fini par pas participer aux séries. Mais il était vendeur dans une situation où il aurait pu... Puis
la même chose pour Pastrnak.
Pastrnak, même affaire. Alors, tu sais, c'est ça. C'est un gars qui a été réaliste sur les chances de ses équipes. Puis finalement, il a eu la récompense pour ça.
Mm-hmm.
Parce qu'il a gagné la Coupe cette année. Alors... Mais c'est difficile, c'est très difficile de faire ça. C'est difficile de le dire à tes joueurs. Alors, il faut être clair en communiquant à tes joueurs. Écoute, moi, j'ai un plan à long terme. Ça inclut pas, ça nous prend plus d'effectifs pour réaliser ce plan-là. Alors, j'espère que vous compreniez. Vous avez super bien fait, mais les deux séquences de 8 défaites de suite, là, qu'on a eu cette saison, on n'est plus capable de compétitionner pour les séries, alors je vais faire ces échanges-là parce que c'est la meilleure chose pour notre avenir. Ou, puis après ça, l'expliquer aux partisans parce que c'est bien, il y a plein de partisans maintenant qui disent « OK, tank, parce que ça va tellement mal depuis longtemps, mais disons que d'ici trois semaines, mettons que le Canadien perd deux fois, dans trois semaines, l'atmosphère dans la ville va être... Il va y avoir une certaine excitation autour de cette équipe-là. C'est comme ça. Ça va être plus difficile de dire aux partisans, OK, on vient de connaître le meilleur mois de depuis 3, 4, 5 ans. je vais échanger notre deuxième meilleur défenseur, notre meilleur attaquant, notre meilleur pointeur, je veux dire. Je vais échanger tout le monde. That's it.
Ouais.
Pulling the plug.
Je comprends. Mais sauf que ce qui est frustrant, c'est qu'à l'heure actuelle, on le voit... On le voit se dessiner le scénario d'une équipe qui ne participe pas aux séries, mais qui finalement termine là, au classement général 17-18e.
Ah, absolument. C'est le plus probable des dénouements de tout ça. Là, c'est que Carey Price prend feu. Ce qui est déjà en train de faire, c'est 112 arrêts sur ses 114 derniers tirs. Là, quand même, c'est quand même hallucinant. Carey Price prend feu, l'équipe revient en santé, Marc Bergevin fait rien, il garde tous ses effectifs, puis il termine à deux points des séries.
Il y a un analyste statistique qui s'appelle Micah Blake McCurdy. On dit tout plus Micah. Hein? Ouais. Micah Blake McCurdy. Il fait de l'excellent travail. Vous pouvez le suivre sur les médias sociaux. C'est Hockey Viz. Sur Twitter. Et Micah, donc...
Ineffective Math sur Twitter. Son site web, c'est HockeyBiz.
Oui, exact, ouais, c'est ça. Ineffective Math sur Twitter. C'est ça. Et Micah, donc, a développé un indice qui s'appelle l'indice de tristesse. Je trouve ça hallucinant. Alors, l'indice de tristesse, c'est le pourcentage de chances qu'une équipe peut rater les séries éliminatoires et ne pas avoir un choix top 5 au repêchage. Parce qu'évidemment, tu rates les séries, tu dis au moins, on va se consoler avec un haut choix au repêchage. L'indice de tristesse, c'est quand t'as ni un ni l'autre. Et à l'heure actuelle, à part les Sharks de San Jose qui s'enlignent pour rater les séries éliminatoires et dont le premier choix est dans la poche maintenant des Sénateurs d'Ottawa, évidemment, les Sharks de San Jose ont l'indice de tristesse dans le tapis. Mais à part de ça, les équipes qui ont l'indice de tristesse le plus élevé, donc qui ont le plus de chances à la fois de rater les séries et de ne pas avoir un choix top 5, ben on retrouve là les Sabres de Buffalo, le Canadien et puis les Rangers de New York.
Ouais.
Donc c'est à pareille date l'an passé, c'était un peu la même chose qu'on voyait se profiler de la part du Canadien. Donc c'est de cette tristesse-là, justement, de cette espèce de cul-de-sac-là dont l'équipe, d'une manière ou d'une autre, doit trouver une façon de se sortir.
Mais la différence entre l'année passée et cette saison, c'est que l'année passée, le Canadien était dans les séries pendant la grande majorité de l'année. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de blessés, effectivement. Il y avait toutes sortes de raisons pourquoi. Mais là, tu sais, de faire un remonté pour se rendre en série, tu sais, je dirais que... Une chose que je vais dire là-dessus. Moi, à la place de Marc Bergevin, moi, j'essaierais d'être réaliste sur la situation et dire, OK, bon, mais on a des actifs. Je pourrais échanger Nate Thompson, puis ça changera pas grand-chose sur l'équipe. Tu sais, Nate Thompson, il porte une lettre. C'est vu comme un leader de l'équipe.
Ouais.
Il joue un rôle en désavantage numérique. Le coach l'adore, ses coéquipiers l'adorent. C'est un joueur important. Mais ça changera pas nécessairement les fortunes complètement des Canadiens si tu l'échanges contre un choix de quatrième ronde ou même troisième ronde, je sais pas, cinquième, whatever.
Ouais, c'est ça. Plus cinq, sinon six.
Puis, ça changera pas grand-chose, mais aussi, tu sais, en fin de compte, c'est combien de choix de cinquième ronde as-tu vraiment besoin comme organisation? Tu sais, c'est comme, il y en a beaucoup en quatre cette année, mais tu sais, il pourrait quand même vendre quelques joueurs sans complètement enlever le vent dans les voiles du Canadien si jamais cette situation se produit, mais en général, je pense que c'est Marc Bergevin, il pense pas que l'équipe va gagner la Coupe Stanley, mais ce qui est important pour cette organisation-là, et dans la tête de Marc Bergevin, c'est que ces joueurs-là participent en série pour savoir c'est quoi les séries.
Ouais.
Montrer à Jesperi Kotkaniemi c'est quoi les séries. Un ex-Suzuki, même Max Domi qui en a jamais joué. Il y a des joueurs où tu veux qu'ils goûtent à ça. Et à un moment donné, quand t'es jeune, il faut que tu goûtes à ça pour apprendre comment c'est différent le hockey en série que le hockey en saison régulière. Tu sais, tu le vois un peu quand t'es dans une course pour les séries, tu sais, les matchs deviennent plus intenses, mais c'est pas la même chose, là. La première ronde des séries, c'est mes matchs préférés de la saison.
C'est quasiment un autre sport.
Moi, j'essaie de regarder le premier match de chaque série.
Ouais.
Parce que c'est malade. C'est juste deux équipes déchaînées qui vont à 120% et c'est juste, c'est ça qui est fun de voir, mais il faut que tu connais ça, il faut que tu vis ça. Et je pense, dans le développement de ces joueurs, Marc Bergevin tient à ça, et c'est pour la seule raison pourquoi tout le monde dit, hey, tu vas pas gagner la coupe, là, autant que ça, tu sais, je choisis quatrième. Non. Il y a un processus à gagner une coupe, et une partie de ce processus-là, c'est d'apprendre comment jouer du hockey de série, et même si tu sors en cinq matchs, au moins t'as cette expérience-là. Et puis au moins t'as eu un goût, t'as goûté un peu à ça, puis c'était trop court, puis tu dis, OK, l'année prochaine, là, moi, je veux plus de ça. Moi, j'ai aimé ça, puis j'aimerais ça revenir.
Puis, c'est important que les joueurs développent cette expérience-là, puis que c'est la connaissance de cet environnement-là, c'est vrai. Mais c'est important aussi que l'organisation elle-même sache comment chacun de ces joueurs-là réagit dans un environnement de série. Bergevin a souvent dit, ça prend deux types de joueurs. Ça prend des joueurs qui vont t'amener en série et d'autres joueurs qui vont t'aider à les traverser. Et dans le cadre de la réinitiation, le reset de son mm-hmm. équipe il y a quelques années, il a échangé Piqué Subban, il a échangé Lars Eller, qui étaient probablement les deux joueurs qui étaient les plus aptes à élever leur jeu d'un cran en séries
éliminatoires. Les séries.
Exactement. Ouais, le Canadien avait pas une tonne de joueurs qui t'aidaient à traverser les séries éliminatoires. Et là, avec ce groupe-là, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que Drouin, au-delà de sa bonne année à Tampa, qu'est-ce qu'il pourrait donner dans un environnement de série? Domi peut donner?
Max Domi que j'aimerais ça. J'aimerais voir Max Domi en série.
Ouais.
Max Domi me semble comme un gars qui jouerait bien en série. Arturi Lehkonen, la seule fois qu'il jouait en série, était leur meilleur joueur.
Ouais.
Et Radulov. Radulov, Lehkonen, c'était un peu kiff-kiff, là, mais Lehkonen a vraiment... Tu sais, Radulov a juste continué à jouer comme il a joué toute la saison. Il n'y a pas eu une baisse de régime. Comme un paquet d'autres joueurs, tu sais, un gars sur son trio notamment, mais Lehkonen a vraiment élevé son jeu d'un cran dans les séries la dernière fois. Alors moi j'aimerais savoir Lehkonen et Domi, c'est les deux gars que j'aimerais voir en série. Ça m'intrigue le plus de voir quelle version de ces joueurs-là on verra en série, parce que la dernière fois qu'on a vu Lehkonen en série, il était vraiment vraiment bon, comme très très bon. Et Domi, il me semble juste comme être le type de gars qui serait bon dans cette situation.
Parce que quand tu arrives à un moment où tu as des choix à faire sur qui tu vas garder au sein de ton équipe, à qui tu vas donner des contrats à plus long terme, sur qui tu vas miser à plus long terme, c'est une information qui est importante à savoir.
Absolument.
Parce que tu dois avoir un équilibre entre ces deux types de joueurs-là, puis ça a trop manqué aux Canadiens d'avoir des joueurs qui t'aidaient finalement à avoir un long parcours en série, puisque si je remonte même 10 ans en arrière, que ce soit avec Andrei Markov, avec Tomáš Plekanec, c'est des gars qui donnaient un excellent rendement en saison régulière, qui voulaient continuer à le donner en série, mais qui n'avaient pas nécessairement un nouveau niveau à offrir. Et alors, ils maintenaient leur niveau. Dans le cas de Plekanec, on lui demandait des choses qui faisaient en sorte qu'il était souvent réduit à des tâches défensives, puis il pouvait plus aller produire en attaque. Mais tout ça pour dire que la coche de plus, il y a trop de joueurs qui l'ont manqué. Puis je pense que ce serait intéressant que le Canadien ait gagné de l'information à ce niveau-là.
Oui, alors il y a cette portion-là, puis il y a aussi juste pour Palin, Kotkaniemi, Suzuki, Mete, Fleury.
Ah oui.
Tu sais, pour ces gars-là, les initier à ce genre de hockey-là, c'est important aussi. Il y a une certaine importance là-dedans. Là, étant dit, c'est pas encore réaliste que les Canadiens vont faire la série. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce que moi, j'essaie de dire, c'est que ça s'explique pourquoi le Canadien tient à ça. Pourquoi le Canadien tient à la possibilité de faire la série? Parce que c'est important dans le reset, comme tu viens de dire. Mm-hmm. Et je pense que c'est cet aspect-là qui est souvent perdu en projetant ce que le Canadien va devenir. C'est que oui, c'est bien beau repêcher plein de gars puis avoir plein d'espoir, là, mais si t'as pas de match, si t'as pas d'expérience des séries, ça donne les Oilers.
Ouais,
c'est comme, c'est un peu ça, là. C'est pas vraiment, ou même les Sabres, c'est comme, c'est pas vraiment, il faut sentir récompensé pour ton travail, tu sais. Te rendre en série, c'est un accomplissement. C'est pas le meilleur accomplissement, mais c'est quand même difficile à faire. Les Canadiens doivent sentir ça.
En tout cas, on va pouvoir voir dans les prochaines semaines dans quelle direction finalement le vent va souffler et en quoi ça va pouvoir influencer les décisions de Marc Bergevin. Là, le Canadien termine une portion importante de son calendrier en recevant les Golden Knights de Vegas samedi. Une semaine de congé, mais nous, on va quand même être de retour pour le Super Athlétique lundi.
Lundi, ouais, on va être là lundi et vendredi prochain en anglais. T'sais, les Canadiens sont en congé, mais pas Athlétique.
Non, nous, on va continuer à fournir du matériel qui, on l'espère, vous intéressera. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et puis on se reparle très bientôt. Bye bye.